Chers frères et sœurs, nous accueillons la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père dans notre vie et dans notre existence. Et nous accueillons ce matin aussi deux familles qui ont demandé le baptême pour leur fille. Les petites pousses dont nous connaissons l'une des racines, Catherine Audier. Et donc, soyez particulièrement bienvenus. Sybille et Mathieu Pignol, tout d'abord, qui sont les parents de Méline. Et puis Christelle et Emmanuel Perrin, les parents de Joanne. Voilà, frères et sœurs, c'est donc un culte qui va commencer par la célébration de la vie. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier répond indiqué qui nous permet de nous présenter devant Dieu. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Parmi ce qui alimente la vie spirituelle des scouts, il y a le livre de Lézard. Et c'est dans le livre de Lézard que nous entendons ces mots qui seront notre louange pour ce matin. Ce que tu me donnes, je l'accepte. Heureuse, heureuse de cette offrande inattendue qui vient à moi. Ce que tu me refuses, je l'accepte encore, sachant que tu es maître de ton bien, libre de donner comme tu veux. Quand tu veux, à qui tu veux. Donne-moi seulement un peu de volonté, afin que je m'en aille dans la mêlée du jour et que je fasse mon travail paisiblement jusqu'à la fin. Donne-moi seulement un peu d'intelligence, afin que je comprenne ce qui fait souffrir les hommes et que je m'avance au-devant d'eux, non pour les juger ni pour les condamner, mais pour les respecter. Et pour les aider, simplement, comme je peux. Donne-moi seulement un peu de patience, afin que je supporte mon semblable, sans le bousculer, laissant le jour passer et puis l'année avant de cueillir la fleur ouverte ou le fruit mûr. Donne-moi seulement un peu de bonté, afin que je pense au bonheur des autres avant de penser au mien, à la joie des autres avant la mienne. Donne-moi seulement un peu de bonté. Ce que tu me donnes, je l'accepte, heureuse. Heureuse de cette offrande inattendue qui vient à moi. Ce que tu me refuses, je l'accepte encore, sachant que tu es maître de ton bien, libre de donner comme tu veux, quand tu veux, à qui tu veux. Amen. Et dans notre psautier, au psaume 81, je vous propose de chanter les strophes 1 et 2 de ce psaume tout à fait joyeux que nous allons donc chanter avec entrain. Prenons place. Ainsi, en demandant le baptême pour ses filles, vous permettez à l'Église de répondre favorablement à cette mission que Jésus laisse à ses disciples. En effet, la fin de l'Évangile, selon Matthieu, retentit de ces paroles « Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, ajoute Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous nous recueillons dans la prière. Pardonne-nous, Seigneur, car nous faisons si souvent le mal que nous ne voudrions pas faire. Et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Nous voulons trop te plaire et nous plaire à la fois. Alors pardonne-nous et aime-nous, afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et à mieux aimer notre prochain. Accorde-nous de désirer et de recevoir pleinement ton pardon pour que notre obéissance soit plus entière et plus joyeuse. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici un verset que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe qui peut être comme une réponse à notre prière. « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Tu es à moi, dit l'Éternel. Je t'ai appelé par ton nom, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Frères et sœurs, levons-nous pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Demander le baptême pour ces deux jolies pousses, c'était aussi exprimer le fait qu'elles s'inscrivent dans une tradition familiale, dans une communauté qui est notamment la communauté de la famille, Et c'était donc leur donner l'occasion de pouvoir entendre des mots que les générations se sont répétés ici même, et donc des mots qui ont pris l'usage d'une confession de foi dite de l'oratoire. Une façon pour nous d'exprimer notre confiance en Dieu en ces termes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle et la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Voilà, le baptême est toujours l'occasion d'une réjouissance, c'est l'occasion de célébrer la vie qui s'ajoute à la vie. J'ai l'impression qu'il y en a une qui n'est pas complètement satisfaite de ce qui va lui arriver. Mais le baptême est non seulement une joie, mais aussi du sens à ce moment que nous partageons, et de façon plus générale, que du sens est disponible dans la vie. Le premier sens, c'est le sens qui retentit au moment où Jésus lui-même est baptisé, au Jourdain. Et de la même manière qu'il y a cette voix qui résonne et qui fait dire « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection », eh bien aujourd'hui, il déclare à Méline et à Johan « Vous êtes mes enfants ». Vous ne le savez pas encore, peut-être que vous ne l'acceptez pas tout à fait, mais je vous adopte. Je vous connais par votre nom et je vous aime d'un amour éternel. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce nom vous est donné gratuitement. Ce nom vous a été offert sans que vous n'ayez rien manifesté, sans que vous n'ayez rien produit, sans avoir accompli quoi que ce soit. Ce nom vous a été offert par grâce seule. Et cela dit déjà quelque chose de ce qu'est vraiment l'amour. Et le baptême redit cet amour-là, le don gratuit, sans espoir de retour sur investissement, juste parce que c'est bien pour vous. Ce nom est donné gratuitement, de façon inconditionnelle, dans l'espérance toutefois qu'un jour, Méline et Johan pourront répondre à cette parole et découvrir la présence de Dieu auprès d'elles. Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu conclut avec nous, de génération en génération. Et nous sommes appelés, chacun, à découvrir que nous sommes accueillis dans cette famille qu'il suscite. Méline et Johan, nous vous accompagnerons sur ce chemin qui est le chemin de toute une vie, un chemin qui est un chemin de foi, de confiance, car il faut bien que vous réalisiez que votre vie est d'abord un cadeau que que vos parents vous ont fait, et pas un cadeau empoisonné. La vie est matière à vous réjouir. Et cela devrait se traduire par un petit bout de sourire. En toute hypothèse, voilà. Car le baptême dit que Dieu nous rend capables d'une vie toujours nouvelle. Que Dieu, c'est ce que nous désignons pour exprimer le fait que dans notre vie, du possible est toujours réinjecté. Que nous n'en finissons jamais d'explorer de nouvelles capacités d'être. Que nous pouvons toujours renouveler notre existence. Qu'elle n'est pas condamnée à s'épuiser dans la lassitude et dans la banalité de la vie ordinaire. Dieu suscite en nous la capacité de pouvoir rendre le monde un peu plus vivable, un peu plus jouissif, un peu plus juste, un peu plus intéressant. Et ce que nous vous disons, c'est que vous êtes l'une et l'autre des êtres capables de cela. Alors nous allons faire droit non pas au droit d'aînesse, mais nous allons procéder par l'ordre chronologique de naissance. Donc je vais vous inviter, vous parents, parrains, marraines de Méline, à me rejoindre. Alors il va falloir que vous vous approchiez un tout petit peu, puisque c'est là que ça se passe. Tes parents ont donc demandé que tu reçoives le signe de ce baptême. Elle est déjà d'accord. C'est presque de l'ordre de la confirmation, finalement. Méline, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Méline, l'Éternel tourne vers toi son visage. Il fait briller sur toi sa lumière et il te donne sa joie, une joie imprenable. Même si les collines s'effondraient, même si les montagnes chancelaient, mon amour pour toi ne faiblira point, dit l'Éternel. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Est-ce que nous osons une petite transition dans mes bras ? Frères et sœurs, voici Méline. Elle est ici chez elle. Vous êtes sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne la retiendra jamais dans cette communauté, mais elle aura la liberté d'occuper ou non sa place. Et si elle venait à s'éloigner de ce lieu, eh bien vous seriez témoin de l'amour indéfectible de Dieu en lui disant que sa place est à jamais marquée. Et puis ce sera notre joie qu'elle confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors ce baptême est une étape sur le chemin de sa vie et de façon à dire qu'il y a un avenir pour cette jeune fille, nous vous proposons de prendre quelques engagements ou plus exactement de dire de quelle manière vous souhaitez engager la suite de son histoire.
Extrait du livre de Lézard. Être vraie, transparente comme l'eau du lac un jour de ciel bleu. Être forte, forte comme la roche que nul casseur de pierre ne peut briser. Être droite, droite comme le peuplier qui se dresse dans un champ. Et simple, simple comme l'alouette qui n'a qu'un chant qu'elle porte au ciel dans un élan de joie.
Méline, à travers ces mots, nous te reconnaissons déjà pleinement dans ton authenticité, ta force de caractère et ta joie de vivre. C'est aujourd'hui ta famille, tes amis, ta communauté qui t'accueille tel que tu es. Sois assuré de ta place parmi nous. Nous te soutiendrons et serons présents dans les peines comme dans les joies. Nous t'accompagnerons toujours pour que tu t'épanouisses et que tu restes fidèle à ce que tu es.
Et puis, il y a le fait que toi aussi, tu pourras suivre le chemin de tes aînés en participant à l'école biblique, en foulant joyeusement ces hauts lieux du protestantisme parisien et en faisant preuve de créativité parfois. Je vous invite à regagner votre place et nous allons passer à toi maintenant, Joanne, et je vous invite à venir avec marraine et parrain. Thank you. C'est ce qui s'appelle faire corps avec sa mère. Donc le pasteur va devoir faire un peu tiers séparateur. Jésus a bien précisé qu'il ne venait pas apporter la paix, mais l'épée. Donc, nous allons mettre un peu de distance. Johann, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Johann, l'Éternel tourne son visage vers toi et il fait briller sur toi sa lumière et te donne sa joie à jamais. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, dit le Seigneur, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Johann, j'ai dans l'idée que nous allons faire un peu comme pour Méline. Je vais t'emprunter quelques temps, de manière à vous présenter Johann, chers frères et sœurs. Johann, tout à fait rassuré. Johann est donc ici chez elle. Vous êtes sa famille spirituelle. Cela signifie que ses parents, parrains et marraines pourront compter sur le soutien de votre amitié, sur le soutien de votre prière, sur le soutien de votre présence. Vous pourrez manifester l'amour inconditionnel de Dieu en répétant inlassablement à cette adorable jeune fille que sa place est à jamais marquée dans cette communauté qui n'est qu'un lieu de cette communauté dont elle fait partie avec toi. Car vous n'êtes pas condamné à devoir rester à l'oratoire, même si c'est un lieu où il fait bon vivre. Nous vous disons que vous faites partie de cette grande famille humaine appelée à vivre selon l'esprit que Dieu nous donne, un esprit de justice, un esprit d'amour, un esprit de bienveillance. Et ce que nous espérons, c'est que un jour, toi aussi, tu pourras confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Pour le moment, c'est à tes parents, parrains et marraines qu'incombe un peu la tâche de te faire avancer sur ce chemin de foi. Et donc, je vais vous laisser également la parole pour exprimer la suite de cette histoire.
Dernière née de la fratrie, tu t'élances déjà avec énergie et confiance dans la vie.
Par ce baptême, nous voulons que tu découvres ta valeur sous le regard bienveillant de Dieu.
Comme nous avons accueilli Salomé, Mao et Paul avant toi, nous t'accueillons à présent dans une famille animée et aimante.
Nous voulons que cette famille soit le lieu de transmission de deux traditions, protestante et catholique, à partir desquelles tu prendras ton propre élan.
Père, mère, parrain et marraine, nous souhaitons t'accompagner dans la découverte de ce qui nous fait vivre, ouverture, entraide, bienveillance et joie.
Frères et sœurs, je vous invite à vous unir dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te louons. Nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Méline et Johann, que tu as reçus dans ton Église et sur lesquels repose ta promesse, la promesse de recevoir dès maintenant la vie éternelle. En présence de cette grâce, nous sentons nos limites, mais forte aussi notre reconnaissance. Donne-nous de prier avec fidélité pour ces petits que tu nous confies et de les élever avec amour et patience. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, à la demande de la famille, c'est dans l'Évangile selon Luc que nous allons plonger notre regard pour y lire au chapitre 19 un récit souvent connu par l'un des héros qui est mis en scène, Zachée. Donc dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, je vais vous lire les 10 premiers versets. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, c'est un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. En effet, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le meilleur lien que nous puissions faire entre ces baptêmes et ce texte, c'est de se lever pour chanter ce cantique 204 qui est au moins aussi connu que l'épisode de Zachée. Nous chanterons les strophes 1 et 2 de ce cantique.
Thank you.
Éternel, notre Dieu, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, dans quel monde vivons-nous ? Eh bien, après avoir bien scruté le monde dans lequel nous vivons, je peux vous l'affirmer avec tempérance, nous évoluons en plein western, et western façon Sergio Leone. Un monde rempli de brutes, de truands, où l'on croise parfois quelques bons. Le bon, la brute et le truand, voilà d'ailleurs les trois acteurs principaux de la scène exposée par l'évangéliste Luc. Alors dans le film de Sergio Leone, le bon, Clint Eastwood, alias Blondin, règle son compte au truand à coups de balles de revolver. Il utilise la brute pour récupérer le magot avant de lui faire passer la tête dans un nœud coulant selon la longue tradition de ce film. Cette gestion du truand et de la brute ressemble assez étrangement à la manière de faire de notre société ces derniers temps, qui exécute les canailles et instrumentalise les mouvements de foule. Parce que la brute, et c'est le premier point que je retiens, la brute, c'est la foule. C'est la foule qui empêche Zachée de voir qui est Jésus. Il ne s'agit pas d'une foule comme celle qui est gentiment rassemblée aujourd'hui à l'oratoire du Louvre, une foule bienveillante, généreuse, empreinte de bons sentiments chrétiens. Une foule rassemblée autour d'une idée, là pour supporter un projet, pour célébrer la vie, par la communion des uns avec les autres. La foule qui est là, dans ce texte, c'est celle des mauvais jours. La foule qui se forme non pour voir, pour connaître, pour encourager, mais pour se faire voir. C'est la foule des mauvais jours, c'est la foule qui marche sur les parlements pour intimider. C'est la foule qui se rassemble pour faire nombre, pour l'épreuve de force, pour montrer que c'est son cortège qui a la plus longue file d'individus. C'est la foule narcissique qui est là. Elle s'admire, elle se compte, elle se recompte, et elle s'indigne si on la sous-estime. Cette foule, c'est la foule qui n'a pas d'autre horizon qu'elle-même, pas d'autre désir que son bon plaisir. Elle s'autofonde, elle ne parle en fait qu'à elle-même, comme le révèle le verset 7, qui rappelle que tous murmuraient, il est allé demeurer chez un pécheur. Ce qui rassemble la foule, c'est la haine de l'autre. Cette foule se nourrit de la rumeur, de la diffamation, de la haine de celui qui ne lui ressemble pas. Et cette foule propage le mal. Elle propage le mal en son sein, au lieu de s'adresser vraiment aux interlocuteurs dont elle fait son miel. La foule que présente ce passage biblique montre que c'est une foule qui fait obstacle. Elle fait obstacle entre les plus petits et ce qui est porteur de vie. C'est une foule qui fait écran. Ce n'est pas une foule positive, c'est une foule qui se construit sur l'adversité. Elle n'introduit pas du plus à vivre, elle bride la vie, elle l'entrave, voire la moleste. Elle empêche Zachée d'accéder à une plus grande connaissance de ce qu'est la vie. De telles foules narcissiques, nous le savons depuis René Girard, ne peuvent en arriver qu'à la violence, ce que René Girard appelle la violence mimétique. C'est la violence engendrée par l'entrechoquement de tous ces éléments qui ont la même charge électrique et qui du coup font jaillir des gerbes de violence. L'attitude de Jésus face à cette foule qui nourrit une violence mimétique contraste singulièrement avec celle de Blondin dans le film de Sergio Leone. Jésus n'instrumentalise pas la foule. Le rédacteur, d'ailleurs, semble plutôt dire que Jésus ignore la foule. Il semble même la traiter par le mépris. Le rédacteur ne précise pas que Jésus observe la foule, encore moins qu'il s'adresse à elle. Peut-être que traiter par le mépris n'est pas la meilleure façon de définir l'attitude de Jésus. En ne jetant pas son regard dans la foule, Jésus évite d'entrer dans une logique du miroir avec cette foule. Il me semble que Jésus fait preuve d'humilité, en fait. Il fait preuve d'humilité comme il fera preuve d'humilité avec une autre foule, celle qui s'était agglutinée autour d'une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il avait baissé le visage vers le sol pour écrire. Peut-être là pouvons-nous voir le signe que Jésus cherchait à éviter à tout prix l'affrontement, à chercher à éviter de renvoyer par son regard la haine que la foule déchargeait sur Jésus et sur cette femme. Éviter l'effet miroir qui renvoie à l'autre ce qu'il nous envoie lui-même. Éviter de présenter dans notre regard la possibilité pour l'autre de voir la violence qui traverse son propre visage. Jésus laisse donc la foule. Il laisse la foule à son propre jugement, à sa propre condamnation. Et Jésus, lui, lève la tête, il lève les yeux. Il passe par-dessus la foule, ce qui est une façon d'ignorer la foule. En tous les cas, c'est une façon de ne pas l'instrumentaliser. C'est une façon de ne pas lui donner prise. C'est une façon de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage de la violence mimétique. C'est aussi considérer que la foule n'est pas en capacité de pouvoir dialoguer. Jésus passe par-dessus la foule et il s'adresse à un individu. Il en repère un et il le choisit. Et il s'adresse à lui personnellement. Et il s'invite chez lui. Et en faisant cela, il me semble que Jésus arrache Zachée à la foule. Il l'exfiltre en quelque sorte. Il le libère de cette foule qui le maintenait prisonnier. Et il lui permet de rejoindre un lieu séparé, un lieu à part, un lieu éloigné de l'espace médiatique, un lieu où Zachée va pouvoir cesser de jouer un rôle, cesser de jouer le rôle qui lui est imposé par l'espace public. Il va pouvoir être vraiment lui-même, non pas tenir un rôle de composition, non pas faire valoir les arguments de son parti, mais pouvoir s'exprimer lui-même profondément, intimement, authentiquement, sincèrement, sans suivre le plan média de son agence de communication. Pourquoi Zachée est-il jugé par la foule comme un pécheur, ce que j'ai traduit par truand? Qu'est-ce qui nous autorise à parler de Zachée comme d'un truand ou d'un pécheur? Son métier, collecteur d'impôts, chef des collecteurs d'impôts, trésorier, payeur général. Eh bien, vous voyez, sans tenir à cette idée selon laquelle tout trésorier, payeur général est un escroc dans l'âme, c'est entretenir cette rumeur-là. Et c'est participer à une violence mimétique, une violence collective, qui consiste à flinguer ceux que l'on estime être des truands. Oui, à ce titre-là, Zachée bénéficiait déjà d'une réputation bien ancrée. Parce que être collecteur d'impôts, c'était voler l'argent du contribuable en prenant une petite partie de ce qui était récolté pour lui-même. Et d'ailleurs, la fin de cet épisode semble le confirmer, puisque Zachée dit qu'il rendra ce qu'il a pris injustement. C'est donc qu'il participait de cette possible logique de mise à l'écart. Et plus que cela, Zachée, avec les collecteurs d'impôts, est considéré comme traître à sa patrie, parce qu'il est en bonne intelligence avec l'ennemi, avec l'occupant romain, avec lequel il collabore, puisqu'en récoltant l'impôt, il remplit les caisses de l'Empire. Voyou et traître, ça fait beaucoup pour un seul homme. Eh bien, c'est cet homme-là que Jésus décide de rencontrer. C'est le paria que Jésus décide de rencontrer, pas un autre. Et c'est ainsi qu'il va transformer son identité de fond en comble. Qu'est-ce qui fait que Zachée va pouvoir en quelque sorte se convertir? Eh bien, du côté de Zachée, ce qui aura été déterminant, me semble-t-il, c'est sa volonté initiale de voir qui est Jésus, de faire sa connaissance. On pourrait dire qu'au commencement, il y a une saine curiosité, une curiosité qui n'a vraiment rien d'un vilain défaut. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait encourager Méline et Joanne, faire preuve de curiosité. Et au fond, ce qui nous rassemble ici, avant toute communion à une déclaration de foi peut-être, avant toute pratique religieuse, c'est un goût commun pour la curiosité. Nous sommes une communauté de curieux. Nous avons envie de voir qui est Jésus. Expression métaphorique pour dire nous avons envie de voir ce qu'est la vie, vraiment. Eh bien, c'est cette curiosité de départ qui va changer la vie de Zachée, qui va lui permettre d'être transformé en profondeur et de quitter ses habits de truand pour retrouver figure humaine. Devenir fils d'Abraham, reprendre sa place dans le peuple des enfants de Dieu. Promesse qui retentit à chaque baptême. La curiosité, c'est ce qui a permis à Zachée de se hisser un peu au-dessus de la mêlée et de pouvoir établir un contact interpersonnel avec ce Jésus qui se promenait à Jéricho. Cette curiosité débouche sur quelque chose d'inattendu et même d'inespéré pour Zachée. Zachée qui va se révéler dans sa bonté originelle. Zachée parce qu'il est exfiltré de l'espace médiatique, qu'il est exfiltré de la violence mimétique de la foule, peut être vraiment lui-même. Et donc, il peut être cet homme intrinsèquement bon, qui n'a pas besoin de jouer le rôle du voyou, qui n'a pas besoin de jouer le rôle du fanatique. Outre la curiosité de départ, il y a l'action bienveillante de Jésus qui est déterminante dans cette histoire. Jésus, qui est véritablement Christ pour Zachée, en ce qu'il lui permet de se libérer de cette étiquette de pécheur qui lui collait si bien à la peau. Jésus arrive à mettre un peu de distance entre Zachée et la rumeur. D'ailleurs, Zachée n'entend plus la rumeur puisqu'il est chez lui. L'action du Christ, nous le constatons une fois de plus, s'adresse à ceux qui semblent les plus éloignés de ce que pourrait être le christianisme. En tous les cas, ceux qui semblent les plus éloignés du Christ. D'ailleurs, ceux qui n'ont même pas accès directement au Christ, qui doivent bidouiller. Je veux dire, même dans sa façon de voir le Christ, il me semble que Zachée continue à truander un peu. C'est comme s'il doublait tout le monde dans la file. Quand on voit quelqu'un qui monte sur un lampadaire pour voir les autres, on se dit que ce n'est pas juste, parce que lui va voir mieux que nous. Zachée continue à être un truand pour la foule, mais c'est à travers cette truanderie que quelque chose de juste va pouvoir arriver. Et au fond, en s'adressant à lui, en s'adressant à cet homme-là, Jésus affirme qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a de destin inéluctable pour personne, qu'il n'y a pas de destin auquel nous ne pourrions être arrachés. Jésus affirme qu'il est possible de sauver ceux qui semblent être perdus. Et qu'au fond, il n'y a pas de situation qui soit vraiment désespérée. Cela est vrai pour Zachée, qui semblait être condamné à n'être qu'un truand, une crapule. Cela est vrai pour chacun de nous, lorsque nous avons l'impression d'être empêtrés dans les impasses de la vie, lorsque nous avons l'impression qu'il n'y a plus aucun horizon à notre histoire, que c'est définitivement bouché et que notre quotidien n'est plus qu'un long et triste hiver sans fin. En s'invitant chez Zachée, Jésus pose que notre vie quotidienne peut être intimement réenchantée par le sacré. L'Évangile devient cette annonce qu'il n'est pas un aspect de notre existence, qu'il n'est pas une dimension de notre société, qui serait dans l'impossibilité d'être restauré dans sa capacité de porter la vie et ce qui fait vivre. Il n'y a pas une partie de notre vie, pas même notre monde professionnel, pas même notre monde associatif, pas même lorsque nous sommes dans les transports en commun, qui pourrait être épargné par l'Évangile. Dans une société brisée par les clivages, menacée par l'affrontement des narcissismes, étouffée par les rumeurs, bloquée par les masses qui veulent imposer leur certitude, le ministère de Jésus révèle qu'il y a encore moyen de retisser du lien social. Il y a encore moyen de remettre en route ce qui aurait été figé. Il y a même moyen de moraliser la vie publique. Seulement, dans la perspective de Jésus, cela ne se fait pas par la contrainte. Cela ne se fait pas par de nouvelles lois, par un mouvement répressif, ni par la danse du scalp. Le changement d'attitude de Jésus n'est pas le résultat d'une menace, mais d'une présence. Jésus se tient là, et c'est une présence bienveillante, qui a reconnu l'autre, qui l'a appelé par son nom, qui l'a reconnu comme un autre semblable, qui a sorti Zachée de la foule anonyme, et qui l'a replacé dans une famille spirituelle, et qui fait confiance à cet homme-là. La famille d'Abraham, souvent, on en fait un modèle de famille. La famille d'Abraham, c'est quand même une famille qui donne des gens comme Jacob. Pas un modèle de sainteté en tout temps et en tout lieu. Mais de la résurrection est possible, aussi bien pour Isaac qui menace de disparaître sous le couteau d'Abraham, son père, qui est sur le point de le sacrifier, que pour Jacob, qui risque de se faire zigouiller par Ésaü, son frère, à qui il a piqué son droit d'aînesse. Dans les deux cas, il y a mort et résurrection. Et une vie nouvelle est possible. Et au fond, dire qu'on a sa place dans la famille d'Abraham, c'est dire que cela est vrai pour nous aussi. Qu'une histoire peut être mal engagée, il n'y a pas d'obligation qu'elle se finisse mal. Du changement est possible. Et ce que fait Jésus, c'est de se tenir là, porteur de cette promesse, porteur de cet évangile. Et c'est dans ce face-à-face avec Jésus, Zachée qui se tient face au Seigneur et qui le reconnaît comme porteur de cette dimension divine, qu'il va décider de changer de vie, d'agir avec justice désormais et de mettre fin à ses pratiques délictueuses. C'est le contact avec le bien absolu, avec l'amour véritable qui transforme Zachée. Ce n'est pas la main répressive, ce n'est pas l'arsenal législatif. C'est le contact avec le bien absolu qui transforme les consciences. C'est le fait de se tenir directement face à l'ultime, sans intermédiaire, sans prêtre, qu'il soit religieux patenté, qu'il soit religieux associé à d'autres religions, d'autres médias. C'est le sens intermédiaire avec le sacré qui permet à Zachée, l'homme de petite taille, qui vivait dans Jéricho, la ville la plus basse du monde, puisqu'elle est sous le niveau de la mer, de pouvoir redonner de la hauteur à sa vie. Et pas n'importe quelle hauteur. Pas simplement la hauteur du sycomore. Une vie à hauteur de l'espérance de Dieu. Que fait Jésus pour sauver Zachée, pour sauver la situation, pour sauver le monde de sa folie? Eh bien, Jésus pratique un exorcisme en forme de bénédiction. En disant que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, Jésus pratique ce qui nous semble pas très orthodoxe, pas très catholique et pas très protestant. Un truc à ne pas faire, exorciser les maisons. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Il fait entendre une autre parole que toutes les paroles qui ont résonné jusque-là à travers ces murs. Une autre parole que celle qui condamnait Zachée à être définitivement pécheur. La maison de Zachée sera désormais chargée d'une autre mémoire, d'une autre promesse qui retentira et qui structurera le désordre dans lequel Zachée vivait jusque-là. Jésus a entrepris ce que le professeur Raphaël Picon appelle une traversée du désordre, pour rejoindre Zachée dans son chaos personnel et l'accompagner jusqu'à ce matin de la vie où nous devenons enfin celui que Dieu nous appelle à être. Et ça, c'est un exorcisme. La traversée du chaos pour rendre notre univers intérieur un peu plus vivable. Eh bien, aujourd'hui encore dans un monde qui ressemble à un furieux western, le Fils de l'homme peut chercher et sauver ce qui semble perdu. Et nous pouvons à sa suite agir autrement que Blondin, avec des sentiments un peu plus évangéliques, en arrachant individuellement les truands à l'univers de la brutalité dans lesquels ils sont plongés, en leur donnant l'occasion de se tenir face au bon, face à ce qui est bon, face à ce qui est juste, face au bien absolu, face au regard de l'amour qui puise dans la source divine. Et c'est en faisant cela que Jésus est capable et nous rend capable de donner de la confiance nécessaire, de redonner de la confiance nécessaire pour se lancer dans une vie qui est, comme le dit Zachée, marqué par la joie d'être au monde. Amen. À la manière d'un petit garçon qui s'exclamerait « Papa !» en faisant preuve de reconnaissance, nous allons nous lever pour chanter les deux premières strophes de ce cantique qui permettront à nos cœurs pleins de reconnaissance de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Prenons place, ce sont les vacances scolaires, il y a donc moins d'annonces à faire, comme à l'accoutumée. Vous dire qu'à l'issue de ce culte, vous pourrez vous rendre dans la grande sacristie pour un verre fraternel. Ce sera aussi l'occasion de féliciter les petites puces, de les embrasser copieusement. Pensez aussi à vous inscrire pour le repas paroissial qui sera organisé dimanche prochain. Cela se fait au comptoir librairie. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autre activité que l'hébreu biblique samedi prochain à 10h à vous annoncer. Et donc, dimanche prochain, culte présidé par Marc, ce sera aussi l'occasion de nous réjouir pour un autre baptême, celui de Marie, fille d'Isabelle. Voilà donc de bonnes nouvelles en perspective, et même si le soleil n'est pas de retour, eh bien au moins, il y aura de la chaleur dans les cœurs. C'est une métaphore. Évitez la fièvre. C'est le moment de l'offrande, et bien voilà, rendez au quadruple, au centuple, ce que vous auriez pris par erreur, et tout le reste, et bien c'est du don gratuit.
nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est pour nous bonheur et joie de te louer, Dieu notre Père, car tu nous donnes la vie et l'espérance. Tu as envoyé ton Fils et il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit et il est devenu notre paix. C'est pour nous l'évangile de l'émerveillement, que toi, Seigneur, tu sois notre Père, que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde, que l'Esprit-Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. Aussi, nous t'adorons et nous te chantons.
Pendant que Jésus et les disciples mangeaient, c'était le dernier repas qu'ils prenaient ensemble, eh bien Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang ». Le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Unissons-nous dans la prière. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toute chose nouvelle dans notre cœur et dans le monde, de telle sorte que puisse s'accomplir l'espérance que contient cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples et que nous te disons en communion avec tous les membres de ton peuple en nous levant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui nous invite, venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude, pour le pardon de tous. Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du Seigneur ressuscité. Nous te remercions, Dieu notre Père, pour ce repas que nous avons pris ensemble, qui scelle notre fraternité. Accorde-nous de vivre de cette nourriture et de te célébrer toujours avec joie, d'être ainsi témoin de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, qui est souvent de bons conseils, nous disait que la bonne manière de lutter contre le mal, c'est par un bien supérieur. Eh bien voilà, faisons nôtre ce mot d'ordre et levons-nous pour recevoir une parole de bénédiction de la part de Dieu, telle que nous en avons entendu un écho dans cet évangile de Luc. Frères et sœurs, le salut est entré sur cette maison. Le salut vous concerne, le salut vous saisit. En effet, nous sommes, nous aussi, fils et filles d'Abraham. Amen.